Pour rebondir avant de commencer sur James Joyce a cette capacité extraordinaire d'avoir été un auteur du domaine public en France, puis d'être revenu dans le domaine privé puisque la loi est passée de 50 années après le décès à 70 années. Il devrait retomber dans le domaine public l'année prochaine. Parions que d'ici là, il y aura peut-être une prolongation pour que le fils de James Joyce puisse continuer ses activités. Bien, je voulais vous parler en fait en introduction de l'enjeu du débat maintenant qui est radicalement différent de l'enjeu des débats précédents puisque nous sommes dans une forme de circuit de l'information qui est très particulière où il s'agit en réalité de construire une communauté d'échanges à partir de documents. Les documents ne servent plus de base à un marché qui irait d'un auteur vers un lecteur, mais la constitution en cycle d'une communauté. De ce point de vue-là, si on regarde le circuit de l'information scientifique, on a à l'origine un producteur d'information qui est en général un chercheur qui est financé par une université, soit sous fonds publics, soit sous les subventions de fondations, ça dépend du modèle économique de financement des universités, mais globalement qui n'a aucune relation directe entre la vente des articles qu'il écrit et son bénéfice commercial ou même sa notoriété. L'intérêt pour ce producteur, c'est d'être lu et d'être cité, quoi qu'il arrive, et à aucun moment de rentrer dans un circuit économique. Ce producteur confie à un éditeur le soin de faire deux choses avec son article. Le premier, c'est de le valoriser, de le hiérarchiser, c'est-à-dire l'éditeur gère une hiérarchie de titres scientifiques, et en fait chaque auteur cherche à se placer le plus haut possible par rapport à l'état de ses recherches dans cette hiérarchie. Ça renforce évidemment sa notoriété, sa capacité à être cité, et derrière les bénéfices économiques indirects qu'il va pouvoir obtenir, soit d'obtenir des crédits pour son laboratoire, pour faire de nouvelles recherches, soit une promotion de carrière. L'éditeur gère donc la hiérarchie des journaux, et pour assurer cette hiérarchie, il gère un comité de lecture par les pairs, le Peer Reviewing System, qui permet effectivement de placer en fait un article. On a tendance à croire que le système de revue par les pairs donne un contenu de vérité à la science qui est proposée. Non, ça donne un contenu dans la hiérarchisation des titres de journaux, c'est-à-dire en général un article refusé par un certain journal qui a une haute notoriété sera repris par un journal qui a une plus faible notoriété, et le comité de lecture par les pairs ajoute, comme c'est général dans la communauté scientifique, à chaque fois qu'on fait un commentaire, on permet à l'auteur d'améliorer son travail, puisqu'on n'est pas dans une expression personnelle, mais bien dans la relation d'une expérience ou d'une prise de position ou d'un ensemble de lectures. Le problème du secteur éditorial dans le domaine de la science, c'est son immense concentration. Qu'est-ce qui favorise cette concentration? C'est le fait qu'on est dans un marché inélastique, c'est-à-dire quand je veux telle revue ou tel article, ça n'est pas un autre. Et donc le marché est quelque part inélastique. C'est en train de changer. C'est en train de changer, on pourra en venir dans le débat, mais pour l'instant, majoritairement, c'est ce phénomène-là. Et donc il y a un phénomène de concentration énorme puisqu'on est dans des situations monopolistiques. Aujourd'hui, nous avons quelques éditeurs mondiaux, dont Reed Elsevier, qui dominent l'ensemble de ce secteur et qui se servent des caractéristiques de ce marché pour des bénéfices absolument énormes. Reed Elsevier annonce un bénéfice de 40% de son chiffre d'affaires, ce qui est absolument exceptionnel. L'intérêt de cet éditeur, il est double. Il est d'abord d'avoir un marché très stable, et on va voir tout à l'heure quel est son acheteur principal, c'est les bibliothèques, mais deuxièmement, de pouvoir vendre deux fois le même article. Il le vend une fois au travers de l'abonnement aux revues, que ce soit un abonnement direct à la revue papier ou un abonnement en package avec la revue électronique, mais surtout, il est capable de le vendre une deuxième fois à l'unité au travers des Copyright Claim Center ou du CFC, le Centre français du copyright en France. L'acheteur, lui, ça n'est pas le lecteur. Là aussi, nous sommes dans une situation radicalement différente des autres secteurs économiques de la culture, c'est que l'acheteur aujourd'hui, c'est la bibliothèque, qui qui finance, qui est basé sur un financement public et qui réalise en cela sa mission d'accès aux documents, c'est-à-dire permettre à des lecteurs de trouver ses revues, et en même temps sa mission de conservation. Ce qui permet à l'éditeur, le fait d'avoir un interlocuteur du type d'une bibliothèque, ça permet à l'éditeur d'augmenter plus aisément ses prix, puisque le lecteur, lui, ne voit pas le coût réel des revues. Et nous avons des revues qui ont des coûts qui sont hors de proportion avec la réalité des documents ou même du circuit économique qu'il y a derrière. Mais ça peut, c'est fait parce qu'il y a mission d'offrir l'accès pour les bibliothèques et mission de conservation, l'éditeur n'a pas même à s'occuper du fait que dans 10, 20, 30, 50 ans, la science continuera à être accessible. L'idée des éditeurs, c'est de reproduire ce phénomène dans le domaine de l'édition numérique. Surtout de ne pas faire acheter à l'unité, sauf dans un marché secondaire, mais d'avoir des achats en masse par les bibliothèques, donc pour garantir leur flot de revenus. Quant au lecteur, le lecteur, il est le même ou le confrère, en quelque sorte la communauté de ceux qui ont été les producteurs d'informations. C'est-à-dire, ils doivent se lire, les scientifiques doivent se lire les uns les autres pour pouvoir produire. Et le lecteur vit l'accès à la littérature scientifique comme un accès gratuit puisqu'il va à sa bibliothèque, la bibliothèque de son université. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans un système où il y aurait à trouver un modèle économique entre un producteur qui aurait intérêt à vendre beaucoup d'articles et un lecteur qui ferait des choix personnels pour savoir quels articles il va acheter. Mais on est dans un système cyclique dans lequel, grosso modo, il n'y a qu'une personne qui peut tirer son épingle du jeu, c'est l'éditeur privé. Alors il a bien sûr un rôle, donc j'ai pu décrire tout à l'heure, sur le contrôle par les pairs. Comment est-ce qu'on peut imaginer de renverser ce système grâce à l'Internet en créant en fait des biens communs de l'information scientifique? C'est l'idée que chaque producteur va pouvoir verser dans une archive ouverte, soit une archive de son institution, soit une archive thématique, les documents au moment où ils rentrent dans ce circuit cyclique que je vous ai décrit précédemment. C'est-à-dire au moment où il est rédigé, puis au moment où il va être modifié après l'évaluation de ses collègues, à ce moment-là, il peut, dans les deux cas, laisser le document dans une archive publique dans laquelle chaque autre chercheur va pouvoir venir puiser. Donc pour le chercheur-lecteur, on aura toujours le phénomène de gratuité, mais il sera élargi non plus à la gratuité d'accès aux ouvrages disponibles dans sa propre bibliothèque, mais bien à la gratuité d'accès à l'ensemble des publications scientifiques qui ont été faites, ce qui est très important pour les chercheurs du tiers-monde qui peuvent ainsi avoir directement accès à l'ensemble des publications scientifiques. Alors, ce modèle de création d'un commun est doublé d'un protocole d'échange qui s'appelle Open Access Initiative, qui permet